tout de suite notre rendez-vous mensuel Un moment pour la Terre avec Lisa Cunier. Bonjour.
Bonjour Odile.
Et ce sera notre dernier avant les vacances d'été.
Tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, nous allons parler, comme vous l'avez annoncé avant, de la biodiversité et des moyens de la préserver. Surtout que là, en effet, on arrive en période des vacances. Donc, on va essayer de donner quelques astuces à tout le monde qui a envie de bricoler pendant cet été dans son jardin et de faire des petits aménagements pour favoriser la présence de la biodiversité. Bon, avant tout, je me présente. Je suis Lisa Cunier, chargée de mission et d'animation à France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence. Et nous sommes la fédération des associations de protection de la nature dans notre département. Et nous agissons sur toutes les thématiques qui sont en lien avec l'environnement, avec la nature. Toutes les thématiques nous intéressent. Et évidemment, entre autres, la grande thématique sur laquelle on agit, c'est la biodiversité. Donc, on vient de dire, on va parler des moyens de préserver la biodiversité. On peut se poser tout de suite la question, mais pourquoi faire et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il faut la préserver? Et bon, là, malheureusement, bon, ce sera pas la grande nouvelle. J'ai pas de réponse très positive à apporter. Aujourd'hui, on l'entend de tous les côtés. Tout le monde nous le dit que la biodiversité ne se porte pas tout à fait bien. Même certains scientifiques parlent de l'extinction, de l'érosion de la biodiversité, donc de l'extinction d'un grand nombre d'espèces animales et végétales qu'on a sur toute notre planète. C'est pas qu'un phénomène local. Et aussi, ils parlent de la perte des écosystèmes, de la disparition des écosystèmes, et au point que certains scientifiques nous alertent aujourd'hui sur la 6e extinction de masse qui serait en cours sur notre planète. Voilà, donc, bon, ça ce sont de grands mots. Comment est-ce qu'ils ont pu constater ça? Donc là, pareil, nous avons beaucoup d'études scientifiques qui sont sorties ces dernières années et qui ont même été médiatisées. Par exemple, en octobre 2017, il y a eu une étude qui a fait quand même pas mal de bruit. Elle a été publiée dans la revue PLOS ONE. Et c'est l'étude allemande qui nous alerte sur la disparition de 75% de la biomasse 75% de la biomasse des insectes volants, la diminution de 75% dans les zones protégées en Allemagne. Donc la biomasse, là, on parle pas du nombre d'espèces, on parle bien du poids des êtres vivants, donc du poids des insectes que les scientifiques ont pu trouver, attraper sur ces terrains. Et ils ont comparé ces données aux données qu'ils avaient pu récolter il y a 30 ans. Et donc ils constatent que en tout, en masse, en nombre d'individus, enfin en poids d'individus, il y en a 75% en moins. Forcément, les insectes, c'est un maillon très important de la chaîne alimentaire, et la disparition des insectes, ça entraîne presque automatiquement la diminution, en tout cas, si c'est pas la disparition, d'un certain nombre d'autres espèces qui se nourrissent des insectes. Donc ça peut être des oiseaux, certains oiseaux, les insectivores, ou encore les chauves-souris. Donc là encore, on a plusieurs chiffres qui ont été publiés. En 2018, c'était l'Office national de la biodiversité qui a publié les chiffres clés de la biodiversité en France. Et donc, ils ont dit qu'en l'état actuel de connaissance, ils constatent que déjà 26% des espèces, de toutes les espèces évaluées en France, présentent aujourd'hui un risque de disparition. Donc c'est un quart d'espèces en France qui sont en danger de disparition. Et ils ont pu aussi constater que 38% des chauves-souris ont disparu en France entre 2006 et 2016. Il y a une autre étude, d'autres données statistiques du ministère de la Transition écologique qui ont été publiées et où on parle d'une baisse de 33% pour les oiseaux qui vivent d'habitude dans les milieux agricoles. Donc ça, c'est un tiers d'oiseaux en moins dans les milieux agricoles. Et même on est allé jusqu'au point que là, ce 10 juin 2021, il y a eu deux groupes d'experts. Donc il y a un groupe d'experts sur le climat, le GIEC. C'est le groupe international. Et il y a un autre groupe, rassemblement, une plateforme d'experts sur la biodiversité, qu'on appelle l'IBES, qui ont publié leur premier rapport commun. et dans lequel, ce 10 juin, ils ont invité tout le monde à agir conjointement sur les deux crises qu'on vit actuellement. Donc, la crise climatique et la crise de la biodiversité. Donc, c'est vrai que, voilà, ces informations-là, il y en a beaucoup d'autres. Je ne vais pas tout citer. Sinon, ça va être très long et vraiment assez déprimant, malheureusement.
C'est complètement alarmant. Si c'est 36% d'espèces de chauves-souris, c'est ça, en moins?
Oui, enfin, 38% de chauves-souris qui ont disparu en 10 ans.
C'est énorme. Ouais.
Voilà, niveau oiseaux, on parle des populations, pas du nombre d'espèces, mais les populations, ça veut dire voilà, la quantité, le nombre d'individus présents. Et donc là, on est aussi à un tiers en moins. Donc, c'est pour ça que certains scientifiques parlent de la sixième extinction de masse, parce que la vitesse à laquelle ça se produit, on peut la qualifier de vertigineuse. Ça se produisait aussi avant, mais pas à cette vitesse-là, pas à ce rythme-là. Et forcément, pareil, les scientifiques, le fameux IBES, ils se sont penchés sur les raisons pourquoi ça se produit. Bon, sans trop de surprise, forcément, c'est beaucoup lié à nos activités humaines. En tout cas, nous, on contribue en très grande partie à cette crise. Et du coup, parmi les premiers facteurs les plus importants et les plus impactants, donc c'est ce que les scientifiques ont qualifié des changements d'usage des terres et de la mer. En gros, ils parlent de l'urbanisation, d'imperméabilisation des sols, ou encore, on peut parler de l'agriculture intensive. En fait, ce sont tous ces cas dans lesquels on va détruire des habitats, détruire des lieux de ponte. L'agriculture intensive, pourquoi on en parle? C'est d'un côté, surtout à cause des pesticides, puisque pesticides, c'est tout ce qui tue, donc ça tue le vivant. Et également, on parle des monocultures. Donc ça paraît, on revient toujours à la même thématique de la destruction des habitats, des lieux de reproduction, de milieux de vie d'un grand nombre d'espèces. Et du coup, pas de diversité de milieux, ça veut presque automatiquement dire pas de diversité d'espèces. Voilà. Et bon, forcément, là, tout le monde peut se poser la question, mais quoi faire? Comment faire dans cette situation-là? Puisque, en effet, je pense qu'on se sent quand même tous concernés, mais voilà, avec toutes ces informations très alarmantes et des fois très culpabilisantes qu'on reçoit de tous les côtés, on peut se sentir impuissant et on peut se sentir, non, mais là, vraiment, moi, je ne sais pas quoi faire, moi, je ne peux rien. Donc, d'un côté, on peut avoir raison dans le sens que forcément, il faut qu'il y ait aussi des actions qui seront mises en place au niveau national, au niveau international. On ne peut pas sortir de cette crise sans des décisions politiques fortes, sans la politique publique qui va vraiment nous mener tous dans ce sens, dans le sens de la préservation de la biodiversité. Mais il faut surtout pas se dire qu'on est impuissant. Il y a toujours beaucoup de solutions, beaucoup de choses qu'on peut mettre chacun en place à notre niveau. C'est une échelle qui sera très très petite. Ce sont des petites actions qu'on va faire, qu'on va mettre en place au quotidien. Mais si on le fait tous, en tout cas une grande partie de nous, si on s'y met, franchement, les résultats de ces actions, on les verra très rapidement. Du coup, nous, à notre niveau, en tant qu'association de protection de la nature, on s'est posé la question comme tout le monde. Comment faire? Qu'est-ce que nous, on peut faire? Et nous avons décidé de créer un espace de préservation de biodiversité. Donc, c'est fin 2018 que FNE 04 a commencé la création de ce lieu qu'on a appelé la butinerie. Ce lieu est dédié à la préservation de la biodiversité, avec un accent sur les pollinisateurs et surtout sur les abeilles domestiques, mais surtout sauvages, en tant qu'ambassadrices de la biodiversité. Donc on a une surface d'environ 1000 mètres carrés, ce n'est pas un lieu qui est très grand. Il nous a été prêté par un agriculteur volontaire qui a une exploitation en bio au lieu dit le pont du Pâtre à Villeneuve. Donc c'est sur la rive droite du Lauzon, et notre terrain il est juste en aval du pont du Pâtre. C'est le vrai pont qui s'appelle le pont du Pâtre. C'est notre trésorier, en fait, cet agriculteur volontaire, c'est notre trésorier. Et ce terrain, la butinerie, se trouve sur son exploitation qui s'appelle les jardins agroécologiques du pont du Pâtre. Et donc, on a fait plusieurs chantiers bénévoles. Et c'est le 5 juin 2019 qu'on a inauguré la butinerie. Le 5 juin, c'était important pour nous. C'est la journée mondiale de l'environnement. Donc, c'est pour ça que pour cet événement-là, on a voulu inaugurer la butinerie. Donc, aujourd'hui, on en est à peu près à 20 chantiers bénévoles. On a mis en place beaucoup d'aménagements différents dont je parlerai juste un petit peu plus tard. Juste pour tous ceux qui ont envie d'aménager leur propre espace de préservation de biodiversité. Alors, comment s'y mettre? Quelle est la première réflexion? La première réflexion, ce sera de regarder le terrain, de regarder les alentours, de bien évaluer les conditions qu'on a, quel est le sol, quelle est l'exposition de ce terrain, généralement dans quel climat on se trouve, quelles sont les conditions d'ensoleillement, quelle est l'humidité du terrain. Donc, pour bien comprendre les conditions de notre terrain, puisque en fait notre objectif ce sera pas forcément de modifier complètement le terrain qu'on a, mais plutôt de nous adapter au terrain qu'on a et de mettre en place les aménagements qui s'intégreront dans ce qui existe déjà sur le terrain. Forcément, les conditions très importantes, c'est déjà de ne pas utiliser de pesticides, même si normalement aujourd'hui c'est interdit pour nous les particuliers, c'est interdit par rapport à l'impact néfaste que ça a sur la biodiversité, mais quand même je le rappelle, pas de chasse, puisque tout ça, ça ne va pas favoriser la présence de la biodiversité. Et donc nous, sur notre terrain, forcément le climat méditerranéen, il s'est exposé presque plein sud, il n'y a pas beaucoup d'ombre, donc c'est très sec, surtout en été, on a très peu d'humidité en été. Et donc nous, quand on aménage notre terrain, donc on essaye toujours de nous adapter à ces conditions. Et nos objectifs, c'était de choisir les aménagements pour lesquels on va avoir besoin d'aussi peu d'arrosage que possible. Donc, par exemple, pour les plantes, on essaie de choisir les plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'arrosage, surtout en été, surtout en juillet, août. Et également, toujours pour les plantes, favoriser les espèces locales, celles qui sont déjà bien adaptées à nos conditions climatiques. Voilà, donc bon, là, je vous propose d'écouter la première chanson. C'est Michael Jackson, c'est la chanson qui parle de la Terre et qui parle de la situation de la biodiversité sur notre planète. Peut-être un petit peu déprimante, mais on va commencer par l'écouter quand même.
About sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? We've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
Voilà, cette chanson de Michael Jackson, Earth Song.
C'est ça. Après cette chanson, forcément, on va passer vraiment aux solutions concrètes, aux conseils très pratiques, puisque sinon, cette chanson, elle nous laisse aussi un petit peu sans réponse à notre question, juste dans le constat des choses qui ne vont pas bien. Et donc, à la butinerie, comme je l'ai dit, nous avons mené cette réflexion par rapport aux aménagements dont nous, on aurait besoin sur le terrain pour favoriser la présence de la biodiversité. Donc, vu que le terrain est petit, on ne peut pas dire qu'on préserve vraiment la biodiversité. En tout cas, déjà, on ne nuit pas et on essaie de créer des conditions dans lesquelles des espèces différentes vont pouvoir s'installer plus facilement sur ce terrain. Donc forcément, quand on a un terrain, tout d'abord, on commence par réfléchir aux plantes. Quelles plantes on aimerait bien avoir sur notre terrain. Donc là, si on parle des herbes, nous, on est parti sur la création des parterres mellifères. Mais en fait, même si vous avez un terrain et que vous avez la possibilité de laisser une partie de votre terrain où vous allez mettre des fleurs mellifères, des plantes, même des fois ce sont des mauvaises herbes, qu'on appelle communément des mauvaises herbes, en fait elles ne sont pas mauvaises. Les scientifiques les appellent plutôt les plantes messicoles, et il y en a beaucoup qui sont mellifères. Mellifères, ça veut dire qu'elles contiennent du nectar qui va donner de la nourriture qui est de la nourriture pour les pollinisateurs. Et donc, en fait, ces mauvaises herbes, entre guillemets, sont très bénéfiques pour la biodiversité. Donc, si vous souhaitez vraiment créer votre lieu, votre parterre mellifère, et mettre des graines et des semences, des plantes avec de belles fleurs qui vont donner du nectar, donc là, il y a beaucoup de solutions par rapport à où les trouver. Forcément, déjà dans les magasins, aujourd'hui, surtout, on trouve très souvent les mélanges mellifères pour les pollinisateurs. Mais sinon, sur notre département, nous avons un collectif des écolo-jardiniers qui, de temps en temps, fait un troc de graines et de semences. Donc, nous, on relaie leurs informations à chaque fois qu'ils font ce troc-là. Ensuite, si vous voulez vraiment quelque chose qui serait bio dès le début jusqu'à la fin, si c'est important pour vous, et vous connaissez sûrement l'association Cucopelli qui propose des semences biologiques libres de droit et reproductibles, même dans leur magasin en ligne, vous pouvez commander. Ou encore, il y a le prieuré de Salagon qui vend sur place dans leur magasin les graines des plantes de Salagon. Il y a sûrement aussi beaucoup d'autres solutions pour choisir vos plantes. Ou si vous ne souhaitez pas forcément rajouter des plantes sur votre terrain, mais si vous pouvez au moins choisir une partie du terrain et limiter la tonte, puisqu'en fait la tonte en vrai c'est un massacre pour la biodiversité. Donc je comprends que des fois nous on a envie d'avoir un terrain qui est tout beau, tout propre, où on peut s'installer, mettre la table de pique-nique et les chaises. Sauf qu'en fait ce qu'on appelle beau et propre pour la biodiversité, ce n'est pas du tout beau, c'est sans aucune vie, puisqu'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas beaucoup de plantes qui vont survivre à la tonte, elles pourront pas faire de graines, elles pourront pas se reproduire. Et ça enlève l'abri, le lieu de refuge pour les insectes, même pour les petits mammifères. Et même pour les sols, c'est assez néfaste pour les sols, puisque du coup, il n'y a plus de plantes qui vont retenir l'humidité dans les sols. Donc ça va s'évaporer, toute l'eau va s'évaporer très vite. Et même le sol peut commencer à craquer. Donc, s'il y a des endroits où vous pouvez limiter la tonte ou juste laisser une prairie fleurie, ça déjà, ce serait une super bonne action pour la biodiversité. Donc forcément, on peut aussi penser aux haies et comment faire des haies avec des arbustes qui donneront des fleurs mellifères au printemps ou en été, et ensuite qui donneront des baies en hiver, en automne et en hiver. Les baies, ce sera très important pour les oiseaux puisque ça va constituer leur stock, leur réserve de nourriture pour l'hiver. Et là, il y a beaucoup d'espèces qui sont aussi locales. On peut mentionner seringa, qu'on appelle le jasmin des poètes, tellement ça sent bon, qui donne des fleurs et qui donne des fleurs qui sont très mellifères. Il y a le laurier thym, il y a le cornouiller, les lilas. La floraison est très courte, mais elle est aussi très bénéfique pour la biodiversité. Et là, je voudrais juste mentionner le lierre. Ça ne fait pas partie des haies, mais ça fait partie des espèces qui sont plutôt mal aimées. Même on l'appelle des fois bourreau des plantes. J'étais étonnée de l'avoir trouvé. mais par contre, on croit que le lierre va étouffer les arbres, mais sauf que ce n'est pas du tout le cas. Il ne va pas les étouffer, puisque le lierre, c'est une liane. Il a ses propres racines. Qui lui permettent de se nourrir. Il va juste s'accrocher à un arbre. Et oui, si l'arbre est malade ou très faible, là, il peut le faire tomber. Mais sinon, pour les arbres qui sont en bonne santé, au contraire, en fait, il va servir d'isolant qui va protéger l'arbre de gel, du gel, de froid. Et également, le lierre a des fleurs qui sont très mellifères et qui fleurissent très tard en automne. Ça fait la dernière source de nectar pour les pollinisateurs. Et après, il fait les baies, du coup, aussi assez tard en hiver. Ce qui paraît, quand les réserves de nourriture pour les oiseaux deviennent très faibles, il y a les baies du lierre que les oiseaux peuvent manger. Donc, en fait, le lierre, ça peut être très intéressant de l'avoir sur son terrain. Voilà. Mais du coup, je voudrais aussi m'arrêter un peu, parler un peu plus en détail de quelques aménagements on les appelle nos aménagements phares. Nous avons fait une spirale aromatique. Donc, spirale, comme son nom l'indique, c'est une construction, c'est un mur en pierre sèche qu'on a fait en spirale. Ça, les pierres sèches, ça peut être un abri, un refuge, par exemple pour les lézards, ou des fois ça peut même être un lieu de ponte si les conditions sont favorables. Et forcément, à l'intérieur, on met de la terre et on va mettre les plantes aromatiques. Alors, la spirale est plus haute au milieu, elle fait environ un mètre de hauteur au milieu, et après, elle descend en pente douce jusqu'à arriver au ras du sol, elle a un diamètre d'environ 2-3 mètres. Alors, pourquoi s'embêter à faire toute cette construction-là? Parce que en fait, ce mètre de hauteur au milieu, du coup, il va créer de l'ombre derrière, sur la partie nord. Et dans notre spirale, nous allons avoir des zones différentes. Tout en haut, en plein soleil, nous allons avoir une zone qu'on appelle plutôt la zone méditerranéenne, avec les plantes qui affectionnent d'être en plein soleil et qui ne souffrent pas énormément de manque d'arrosage, de manque d'eau. Donc ce sont les plantes comme le romarin, la lavande, le thym ou la sauge. Ensuite, nous allons avoir une partie intermédiaire avec les plantes aromatiques peu exigeantes comme la bourrache ou l'origan ou la ciboulette. Et dans la partie basse, qui sera la partie la plus humide et la plus fraîche, on va avoir des plantes comme le cresson, l'oseille ou le basilic qui n'aiment pas forcément être en plein soleil. Donc, juste pour vous donner quelques indications, nous, pour notre spirale qui fait environ, 2,5 mètres de diamètre et qui monte au milieu jusqu'à 1 mètre, nous avons acheté 2 tonnes de pierres à bâtir. Alors, les pierres à bâtir, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire une spirale. Forcément, le mieux, c'est si vous pouvez trouver des pierres plates, parce que ce sera beaucoup plus facile à assembler dans un mur en pierre sèche. Bon, nous, on n'en a pas trouvé à côté de la butinerie, donc on a acheté des pierres à bâtir. On a acheté 2 tonnes avec la livraison, ça nous a coûté dans les 300 euros. Donc c'est un investissement, je ne dis pas que ça se fait facilement, contrairement aux autres aménagements qu'on peut faire, mais en tout cas... Ensuite, c'est quelque chose qui est très visuel, qui est très joli, qui est très pédagogique. On peut y intégrer aussi des briques creuses, on peut mettre des branches, des tiges pour les insectes. À la fin de cette spirale, on peut intégrer un bassin avec de l'eau pour qu'il y ait une petite source d'eau sur le terrain. Donc tout ça, ça va être très joli. C'est vraiment un bel aménagement paysager qu'on peut faire dans son jardin. C'est pratique pour nous puisque du coup on va avoir des plantes aromatiques juste à la portée de la main et en même temps ça reste quelque chose qui est bénéfique pour la biodiversité. Ensuite, bon, aujourd'hui on en parle beaucoup, on le voit souvent, ce sont les hôtels à insectes, ça commence à apparaître un peu partout, dans les villes, dans les villages, en centre-ville, dans les parcs. Donc c'est vrai qu'un hôtel à insectes, c'est un aménagement qui est pédagogique, qui est très visuel. C'est super pour observer les insectes, puisque du coup, on voit des insectes différents qui sont dessus. Par contre, bon, les insectes sont pas forcément des animaux qui sont très sociaux. Ça ne les enchante pas tant que ça, entre guillemets, de vivre à côté avec beaucoup d'autres insectes. Donc si sur votre terrain vous avez la possibilité, vous pouvez juste laisser un petit peu de matériaux différents dans des endroits différents de votre terrain, un petit peu éloigné. Donc dans un hôtel insecte, juste les choses qu'on met dedans, il y a certaines parties qui vont être pour la ponte, pour donner des lieux de ponte, surtout aux abeilles sauvages. Et il y a d'autres parties qui vont être plutôt pour les insectes qu'on appelle les auxiliaires des cultures. En fait, ce sont les insectes qui nous aident dans notre jardin, qui sont nos alliés dans le jardin, et pour leur donner des lieux pour passer l'hiver. Alors, vous avez sûrement vu dans les hôtels à insectes, il y a souvent beaucoup de tiges creuses ou tiges à moelle molle. Alors, tiges creuses, c'est souvent du bambou. Tiges à moelle molle, ça peut être du sureau. Ou encore des bouts de bois avec des trous percés de diamètres différents qui peut aller de 3 à 10 millimètres. Tout ça, c'est principalement pour les abeilles sauvages, dont il y en a certaines qu'on appelle les abeilles maçonnes. Alors ça, ce n'est pas une espèce, c'est plus une catégorie par rapport à leur façon de se reproduire, de pondre leurs œufs. Ils vont chercher des tunnels, et d'où la différence de taille, que ce soit pour les tiges ou pour les trous dans du bois. Elles ont une taille différente, et du coup... en fonction de leur taille, ils vont choisir des tunnels différents. Elles vont apporter de la terre, petit à petit, bout par bout, pour déjà mettre de la terre tout à l'intérieur de ce tunnel. Ensuite, elles vont apporter du pollen, elles vont mettre une boulette de pollen. Elles vont pondre un œuf dessus, elles vont boucher ce compartiment, toujours avec de la terre. Et en fait, elles vont faire plusieurs petits compartiments dans le tunnel, et quand elles arrivent jusqu'au bout, elles bouchent le tunnel complètement. Les larves vont se développer là-dedans, et au printemps prochain, il y aura de nouvelles abeilles, des abeilles sauvages, ce sont par exemple des osmies qui font ça, qui vont sortir de ces tunnels. Après, quand on met du bois mort, donc ça, ça peut être pour des insectes qu'on appelle les insectes xylophages, ceux qui se nourrissent du bois mort, mais également pour ce qui s'appelle l'abeille charpentière noire, mais qu'on connaît plus souvent sous le nom d'un bourdon noir. Abeille charpentière violette, excusez-moi, mais on l'appelle souvent bourdon noir. Ce n'est pas un bourdon, c'est bien une abeille. Vous savez qu'elle a des reflets un peu violacés, bleus sur ses ailes. Elle est très très grande, et donc elle va creuser des trous dans du bois. Donc des fois, en effet, elle peut choisir notre charpente pour faire ça. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle charpentière. Et je sais que des fois, il y a des gens qui ne l'aiment pas et qui même essayent de la tuer. Bon, je peux comprendre dans le sens, enfin, pour qu'elle ne fasse pas de trous de partout dans la charpente. Mais en fait, la solution est très simple. Si on lui laisse un petit peu de bois où elle pourra creuser ses trous, du bois non traité, du bois quand même, enfin, des morceaux plutôt costauds, parce qu'elle est très grande et il va faire des tunnels qui seront très grands. Bon, bah, dans ce cas, ça peut lui paraître suffisamment attractif pour qu'elle laisse votre charpente tranquille. Voilà, donc soit les hôtels insectes, soit juste des endroits où vous allez laisser un petit peu de feuilles mortes, un petit peu de branches mortes. Tout ça, nous, on a l'impression que si on les laisse, le jardin ne sera pas propre. Mais en fait, si, ce sera propre et ce sera vraiment très accueillant pour la nature, pour la biodiversité. Voilà, et bon, le troisième aménagement phare qu'on aime beaucoup à la butinerie, nous avons créé une petite mare pédagogique pour avoir une source d'eau, enfin un point d'eau sur notre terrain, et aussi pour fournir un habitat aux insectes, alors soit aux animaux aquatiques ou aux insectes qui ont besoin d'eau pour la reproduction. On passe souvent tout de suite aux libellules ou aux demoiselles, mais il n'y a pas que elles. En fait, il y a beaucoup d'autres insectes qui ont besoin d'eau pour se reproduire, qui vont pondre dans l'eau et leurs larves vont vivre dans l'eau. Donc là, on peut parler des éphémères, des trichoptères, des plécoptères. Il y a beaucoup de noms scientifiques. Alors, moi, j'aime beaucoup les éphémères. Je ne sais pas si vous savez pourquoi ils s'appellent comme ça.
Parce qu'ils ont une durée de vie très courte.
Tout à fait. Et ils ont une durée de vie très courte parce qu'une fois adultes, ils n'ont pas de bouche. Ils ne peuvent pas manger. Et en fait, ce qui est vraiment curieux, c'est que au niveau de l'évolution, ce sont des insectes ailés les plus anciens qui sont encore vivants sur notre planète. Ils ont apparu il y a très longtemps, et voilà, c'est entre guillemets, c'est les restes du monde qu'on avait il y a 200, 300 millions d'années. Ils ont survécu, donc leur larve va vivre pendant 2-3 ans dans l'eau, mais une fois adultes, ils n'ont pas de bouche, ils ne peuvent pas manger. Donc c'est pour ça qu'on a des émergences, des éphémères, parce qu'il faut absolument qu'ils se transforment en adultes en même temps, s'ils veulent avoir la chance de trouver leur couple et de pouvoir se reproduire. Voilà, il y a beaucoup d'autres animaux qui ont besoin d'eau pour se reproduire. Donc c'est pour ça que nous avons fait une petite mare, une petite retenue d'eau. Alors attention, les grandes retenues d'eau peuvent être dangereuses pour l'environnement, pour le fonctionnement des cours d'eau. Mais une petite retenue, donc la nôtre, elle fait 2 mètres par 3 mètres et environ 1 mètre de profondeur. Donc ça, on peut faire ça sur son terrain. Donc il faut acheter du géotextile et une bâche de bassin pour pouvoir la fabriquer, pour que ce soit étanche, pour que ça retienne l'eau. Et du coup, comme ça, on peut avoir ce point d'eau sur son terrain. Alors, on peut avoir peur des moustiques, mais nous, à la butinerie, depuis 2 ans qu'on a cette mare, on ne s'est jamais fait piquer par des moustiques. Alors, si on a la biodiversité autour, si tout autour on a des animaux, que ce soit des oiseaux, des amphibiens, des libellules par exemple, ou des larves de certains insectes qui sont aussi carnivores, qui vont manger soit les larves des moustiques qui sont dans l'eau, soit les moustiques adultes quand ils vont se transformer, si on a toute cette biodiversité, après on ne va pas vraiment souffrir de la présence des moustiques. Voilà, sur ce, je vous propose de mettre la deuxième chanson. C'est la chanson d'Aretha Franklin et qui s'appelle « Respect ». Alors, elle ne parle pas de la biodiversité, elle parle plutôt du respect envers la femme. Mais je trouve que ça, c'est la notion qui peut également s'appliquer à la biodiversité.
Voilà.
Voilà, donc toujours avec cette notion du respect pour la biodiversité. Donc là, j'ai mentionné quelques aménagements que nous avons faits à la butinerie. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. On peut parler des nichoirs pour les oiseaux, qui ont été occupés d'ailleurs. Ce printemps, on a eu un couple de mésanges bleus qui a niché dans le nichoir. On a pu les observer faire les allers-retours pour nourrir leurs petits qui mangent beaucoup. Les mangeoires pour les oiseaux qu'on installe en hiver pour les aider à survivre. Des abris à chauves-souris, des... Si vous avez le grillage autour de votre terrain, vous pouvez faire aussi des passages à petits mammifères, comme ça des lapins, des hérissons, ils vont pouvoir passer et circuler librement entre des terrains différents. Et le tas de bois mort, si vous le laissez, donc ça peut être intéressant pour les insectes, mais pas que. Également, les hérissons, ils vont vraiment affectionner ce tas de bois mort, et notamment ça va leur être très pratique pour passer l'hiver. Et évidemment la mare, voilà, qui est une source d'eau pour tous ces animaux qu'il y a autour, qui est un lieu de reproduction, qui peut être un abri pour certains animaux. Et juste pour vous raconter une petite anecdote, nous, depuis qu'on a créé cette mare, chaque année, on voit ce qu'on appelle la libellule déprimée. Donc le mâle, alors on le reconnaît parce qu'il est de couleur bleu ciel. Et cette libellule-là, elle va s'installer vraiment à côté des toutes petites retenues d'eau. Donc on voit régulièrement le mâle faire les tours autour de sa mare et chasser tous les concurrents potentiels de sa mare. Et alors libellule déprimée, pourquoi on l'appelle comme ça? En fait, c'est pas un trait de caractère, c'est parce que ces libellules-là ont un abdomen qui est plat. Et pour les libellules, ce n'est pas vraiment très courant. Donc et c'est plat, donc c'est la dépression dans le sens que c'est aplati. Voilà. Et bon, c'est magnifique de pouvoir observer toute cette biodiversité. Des fois, je peux passer des heures juste à regarder la vie dans la mare ou à regarder le tel insecte, à prendre les photos. Et ces aménagements-là, déjà, c'est très bénéfique pour nous puisque c'est joli. C'est super intéressant. Ça nous permet de voir les choses qu'on ne voit pas d'habitude. Et également, ça aide... La biodiversité, alors je ne vais pas dire que c'est uniquement ça qui va la sauver, mais en tout cas, ça peut aider au moins un petit peu. Donc, pour faire la conclusion, en tout cas de cette partie-là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne soyez pas déprimés comme la libellule, agissez. Vous pouvez, que ce soit en aménagement chez vous ou si vous n'avez pas de terrain, si vous n'avez pas de balcon, vous pouvez également interroger votre mairie sur les aménagements qui peuvent être mis en place dans la ville, dans le village, en centre-ville, même si des fois ça peut être des choses toutes petites. Mais en fait, vous, en tant que citoyen, vous pouvez également agir. Voilà. Et du coup, là, je voudrais juste parler en quelques petites minutes qui nous restent des prochains événements à venir, puisque nous allons avoir le mois de juillet qui va être bien rempli, bien chargé. On a un programme très dense. Alors, en parlant de la butinerie, déjà le 21 juillet, nous allons faire un inventaire à la butinerie. Nous allons avoir une association avec laquelle nous travaillons, E4, une association qui fait des inventaires naturalistes, qui va venir. Et nous invitons également tous nos bénévoles à venir. Alors, bénévoles ou même si vous n'êtes pas notre bénévole, vous pouvez aussi venir si ça vous intéresse. Donc, que ce soit le 21 juillet à la butinerie, au lieu dit le pont du Pâtre, de 10h à 15-16h. Et ensuite, notre grand événement de cet été, c'est la journée des portes ouvertes à la butinerie. Après ces 20 chantiers bénévoles, ces 3 années d'aménagement du terrain, on ouvre les portes de la butinerie à tout le monde. On invite nos associations adhérentes, on invite nos partenaires et on a envie vraiment de faire un événement très festif avec beaucoup d'animations, de jeux, d'ateliers, de stands, tout autour de la biodiversité et comment on peut faire pour la préserver. Journée des portes ouvertes, c'est le 24 juillet, toujours à la butinerie, forcément, de 10h à 15h, donc Villeneuve, lieu-dit Pont du Pâtre. Et ensuite, nous allons également faire des événements dont l'objectif est de protéger la biodiversité, mais là, on va plus tant parler des insectes pollinisateurs, mais on va plutôt parler de la biodiversité aquatique, de la biodiversité de la bléone. et des petits animaux, des petits invertébrés aquatiques qu'on peut trouver dans la Bléone. Là, nous avons encore deux événements à venir. Le prochain, c'est samedi 17 juillet à Prats. La PPMA La Bléone nous a invités à nous joindre à la fête de la pêche qu'ils organisent là-bas. Et nous et le CPE Alpes de Provence, nous allons proposer des animations et des jeux et de petits ateliers, de petites balades sorties pour découvrir toute la biodiversité de la Bléone et de ses berges, pour comprendre comment fonctionne la rivière Intresse et quels sont ses besoins, comment on peut la maintenir en bon état. Et ensuite, l'autre événement, ce sera dimanche 25 juillet, à Digne cette fois. Alors, le lieu est compliqué à indiquer, ce sera... vous savez, quand vous allez vers la réserve géologique, donc vous passez le pont des Arches, et en fait, si vous continuez sur la route de Barle, juste après le pont des Arches, sur votre droite, vous avez un petit parking, il y a aussi un terrain de basket, je crois. Et donc, c'est là qu'on va se donner rendez-vous. Pour aller au bord de la Bléone pour pêcher les petits invertébrés. Et donc, ce sera une matinée de 10h à midi, une matinée pour petits et grands en quête des petits animaux de la rivière. Et si j'ai encore 30 secondes, je voudrais juste dire que cet automne, en septembre, il y aura le congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature, le congrès de l'USN, un événement international qui se déroulera à Marseille, du 3 au 11 septembre. Les journées grand public, ce sera du 4 au 9 septembre. Et nous, on y sera et on vous invite à y aller également. Merci beaucoup.
Merci Lisa, et à la rentrée très certainement aussi pour ces moments pour la Terre. Merci. Bonne journée, au revoir.
Merci Odile, au revoir.